Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à faire partie aujourd'hui de ce colloque tout à fait passionnant. C'est la première fois que je participe et j'ai pu en acquérir beaucoup de choses. Par contre, ma question d'aujourd'hui, c'était quelle liberté pour les intelligences artificielles? Et je vois qu'on est complètement dans un presque autre secteur, car j'étais appelée à réfléchir sur la liberté et le fait de la concevoir dans le cadre des intelligences artificielles où toutes les notions semblent très difficiles à être définies et bien, disons, encadrées. Donc, en réfléchissant à ces questions, je me suis dit comment l'approcher, qui détermine qui. Aujourd'hui, dans le débat qui est le nôtre, concerne les intelligences artificielles et la question de la liberté, est-ce que c'est les machines qui vont commencer à nous déterminer ou c'est nous qui déterminons les machines? Donc, c'est la création des êtres intelligents, artificiels, est l'une des préoccupations les plus anciennes, les plus durables de l'imagination et de l'esprit humain. Des êtres de ce type apparaissent dans de nombreux récits humains, dans des mythologies, les religions, les littératures, et tout particulièrement les films et les séries télévisées de science-fiction. Les robots, en particulier les robots humanoïdes, doivent une grande part de leur popularité aux films et aux séries télévisées de science-fiction où ils sont majoritairement, mais pas uniquement, présentés comme une menace ultime pour l'humanité. En guise d'exemple, on peut citer que les plus connus, celui de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Joseph Sargent, le cerveau d'acier, de James Cameron, Terminator. Donc, dans la réalité, le développement des robots a été nettement plus lent et plus modeste que ce qu'on imaginait les fictions littéraires et cinématographiques. La plupart des historiens considèrent qu'Animate et Shaké sont les premiers robots au sens moderne du terme. Animate est considéré comme le premier robot industriel qui a été conçu en 1954 pour exécuter des tâches dangereuses pour les travailleurs humains, comme par exemple le transport des pièces coulées sous pression et leur soudage à l'armature des véhicules. Le premier Animate, contrairement à ses successeurs plus complexes, n'était composé que d'un bras robotique et d'un programme sous forme de tambour magnétique. Shaké est le robot à roues conçu entre 1966 et 1972 et c'est le premier robot basé sur l'intelligence artificielle et capable de raisonner et d'optimiser ses instructions. Commandé à partir d'une console informatique, il pouvait exécuter des tâches comme se déplacer d'une pièce à une autre, ouvrir et fermer une porte, déplacer des objets ou allumer et éteindre la lumière. Certaines caractéristiques générales des robots contemporains comme l'autonomie, l'interactivité, la communication et la mobilité méritent d'être soulignées non seulement parce qu'elles sont essentielles pour comprendre ce que sont ces robots, mais aussi parce qu'elles soulèvent individuellement et collectivement des préoccupations éthiques particulières, même lorsque la technologie fonctionne parfaitement. Premièrement, la mobilité, il faut savoir, en ce qui concerne des robots, qu'ils ne sont pas tous mobiles. Néanmoins, aujourd'hui, il existe des robots qui peuvent marcher, des robots bipèdes ou à plusieurs jambes, ramper, rouler, avancer sur des roues, voler et nager. La mobilité est effectivement un attribut essentiel de nombreux types de robots parce qu'elle permet d'exécuter des tâches à la place des êtres humains, mais dans des environnements qui sont typiquement humains, à savoir des hôpitaux ou dans des bureaux. Deuxièmement, la capacité d'interaction avec l'environnement est un autre attribut important des robots qui les fait distinguer des ordinateurs. Étant équipés de capteurs et d'actionneurs, ils peuvent recueillir des informations pertinentes à partir de leur environnement. Par exemple, ils peuvent reconnaître et distinguer différents objets ou personnes et mesurer leur distance. troisième caractéristique qui nous intéresse, c'est la communication. Contrairement au premier robot qui avait besoin d'une interface informatique pour communiquer, de nombreux robots sont aujourd'hui équipés de systèmes sophistiqués de reconnaissance de la parole et de synthèse vocale qui leur permet de communiquer avec des êtres humains dans une langue naturelle. Il s'avère aussi que cela soit une nécessité aujourd'hui de mettre au point des robots capables de recevoir de manière fiable des instructions, même d'être programmés en moyen d'une langue naturelle sur le modèle de la programmation neurolinguistique, vu l'accroissement donc de leur présence dans des espaces humains. La quatrième et la dernière caractéristique, et celle qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est l'autonomie du robot. Selon George Beckey, professeur émérite de robotique à Berkeley, l'idée généralement admise de ce qu'est un robot implique de façon essentielle un certain degré d'autonomie ou l'aptitude à réfléchir seul et à prendre ses propres décisions pour agir sur l'environnement. L'autonomie, dans ce cas-là, est définie comme une aptitude à fonctionner dans un environnement réel sans aucune forme de contrôle extérieur une fois la machine activée et au moins dans certains domaines de fonctionnement pendant une durée prolongée. Les premières générations de robots étaient des automates, plus ou moins complexes, c'est-à-dire des machines capables d'exécuter des tâches répétitives assez simples, comme les robots de chaîne de montage, par exemple. Les robots plus récents, par contre, sont plus autonomes et peuvent exécuter seuls des tâches plus compliquées, sans dépendre de commandes ou d'un contrôle humain. L'autonomie peut alors être considérée comme l'attribut essentiel d'un robot, parce qu'elle le distingue d'un simple outil ou appareil commandé par un être humain. Les progrès de la robotique en matière de mobilité, donc de communication, de capacité d'interaction et d'autonomie, ont été rendus possibles grâce au développement d'intelligence artificielle. Selon Karen Warwick, un scientifique britannique et professeur de cybernétique à l'université de Coventry, au Royaume-Uni, connu pour ses recherches sur les interfaces directes entre les systèmes informatiques et les systèmes nerveux humains, qui lui-même a fait une expérience en connectant son bras à un ordinateur et en captant les réflexions neuronales de son bras, il les a transposées à l'ordinateur et après il a réussi à faire manipuler son bras à travers l'ordinateur. Donc, pour lui, qui est aussi un adepte des courants transhumanistes, le robot intelligent est défini comme une incarnation d'une entité artificiellement intelligente. Et il est ce qui donne donc un corps, le robot, à l'intelligence artificielle. Toutefois, bien que les robots aient un corps, ce qui les distingue des ordinateurs, ils ne sont pas tous intelligents. Donc ceci nous amène à définir ce que l'on entend par l'intelligence artificielle. Il est déjà difficile de définir ce que est l'intelligence, mais définir l'intelligence artificielle est encore plus difficile. L'intelligence artificielle désigne généralement deux choses qui sont liées entre elles, en tout cas dans les débats qui sont en lien avec les développements technologiques d'aujourd'hui. Elle peut en effet désigner un domaine de recherche, c'est-à-dire une approche transdisciplinaire de la compréhension, de la modélisation et de la réplication de l'intelligence et des processus cognitifs faisant appel à divers principes et appareils informatiques, mathématiques, logiques, mécaniques ou même biologiques. Comme le disait Marvin Minsky, l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle, c'est la science de faire à des machines des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elle était faite par des hommes. L'intelligence artificielle peut aussi désigner le produit final de cette recherche. Une donc machine ou interfact qui incorpore une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire qui est capable de réfléchir ou de résoudre des problèmes d'une manière semblable à la pensée humaine. On pourrait donc penser que la robotique est simplement une application des connaissances acquises dans le cadre général de la recherche en intelligence artificielle, mais la relation qui existe entre l'intelligence artificielle et la robotique est plus complexe. Selon Robin Murphy, le professeur d'informatique et d'ingénierie à l'Université de Texas, où elle dirige aussi le centre de recherche et de sauvetage assisté par les robots, la robotique a joué un rôle décisif dans le progrès de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de considérer l'intelligence artificielle vraiment par rapport à des cas de la robotique, parce qu'elle demande à reconsidérer de nouveau la compréhension de ce que est la représentation des connaissances, la compréhension du langage naturel, qu'est-ce que l'apprentissage, qu'est-ce que la planification et résolution de problèmes, qu'est-ce que l'inférence, qu'est-ce que la recherche et qu'est-ce que la vision. Autrement dit, ce qui semble s'être produit est une coévolution de la robotique et de l'intelligence artificielle, et en même temps de la compréhension de tous ces concepts par rapport à notre propre façon de considérer nos propres façons de penser et d'agir par rapport à ces domaines de recherche et de vision même. Pour illustrer les progrès donc énormes qui se sont produits, il suffirait peut-être de comparer les générations de robots. Le premier, qu'on avait mentionné, le premier Shaquet, qui était basé sur les intelligences artificielles. Il s'agissait donc d'un robot mobile, capable de percevoir et de représenter dans une certaine mesure son environnement, et aussi d'exécuter des tâches simples, telles que planifier, effectuer des calculs d'itinéraires et de redisposer des objets simples. Cependant, ce robot devait être contrôlé par un ordinateur occupant toute une pièce, et ne pouvait fonctionner en temps réel. Donc, il lui fallait des heures pour trouver un chemin conduisant d'une extrémité de la chambre vers l'autre. Le robot Kismet, conçu au début du XXIe siècle, au laboratoire d'intelligence artificielle de MIT, qui est construit dans un but d'interaction sociale, était un robot qui pouvait remuer les yeux, changer d'expression faciale en fonction de son humour, communiquer par la parole avec des êtres humains et réagir à l'humour et aux émotions de son interlocuteur. Ce premier prototype a ensuite conduit au développement de robots encore plus sophistiqués dans le domaine de l'interaction sociale. Et on pourrait par exemple mentionner le dernier, Sophia, un robot humanoïde mis au point par Hanson Robotics, une entreprise basée en Hong Kong, le 19 avril 2015, et qui est tout à fait intéressant parce que c'est en même temps le premier robot à avoir obtenu une nationalité. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a obtenu la nationalité de l'Arabie Saoudite. Et si on sait que c'est inimaginable pour les non-Arabies saoudiens d'avoir la nationalité, la donner à un robot, en plus une femme non portant un hijab, ayant un nom Sophia, montre toute presque la perversion de l'affaire. Mais bon, ces deux exemples montrent clairement le changement de paradigme qui est intervenu en robotique pendant les dernières décennies. Alors que les premiers robots à l'intelligence artificielle étaient programmés sur la base qu'on appelle le paradigme hiérarchique, les plus récents s'appuient sur le paradigme réactif ou le paradigme mixte de délibération et de réaction. Brièvement, le paradigme hiérarchique signifie que le robot exécute chaque opération de haut en bas. Il commence donc par capter des informations, puis prépare ou planifie et finit par agir. Le paradigme hiérarchique, qui était essentiellement une tentative, effectivement, d'imiter la pensée humaine, s'est heurté à plusieurs difficultés, en particulier ce qu'on appelle le problème du cadre, c'est-à-dire la difficulté à reconstruire les éléments d'information manquants, à distinguer information pertinente et information non pertinente, car ce que ce qui effectivement manque à un robot et que l'humain possède, c'est le sens commun qui lui permet de faire le tri des informations dans lesquelles il va porter un jugement. Ceci donc a conduit à la définition d'un nouveau paradigme, le paradigme réactif, qui s'est inspiré notamment de la biologie et de la psychologie cognitive. L'innovation fondamentale a consisté à réduire l'élément de préparation, de planification, qui demandait trop de temps et de puissance de calcul, en liant directement certaines actions du robot à des données sensorielles particulières. Toutefois, comme la planification ne pouvait être entièrement évitée, surtout dans le cas des robots généralistes, le paradigme mixte, délibération et réaction, a ensuite été mis au point en combinant les éléments les plus pertinents des deux paradigmes précédents. Donc, quel que soit le paradigme dont ils relèvent, et indépendamment de leurs différences de forme, de taille et de mouvement, les robots exécutent leurs tâches sur la base d'algorithmes. Donc, le terme d'algorithme est surtout utilisé en informatique. Il est généralement défini comme un ensemble de règles ou d'instructions bien définies à appliquer pour résoudre un problème, par exemple exécuter un calcul en un nombre d'étapes finies. Les algorithmes déterministes contrôlent le comportement prévisible des robots déterministes, tandis que les algorithmes des intelligences artificielles disposent de capacités d'apprentissage et ils sont au cœur du fonctionnement des robots cognitifs. Il est important de noter que les comportements d'un robot déterministe, même s'il s'agit d'un robot très complexe, intelligent et autonome, c'est-à-dire requérant très peu ou aucune surveillance humaine, est essentiellement préprogrammé et déterminé, ce qui a des implications quant au statut moral des robots. D'un point de vue donc éthique, c'est ce qui est plus souhaitable parce qu'on peut suivre une certaine traçabilité dans sa prise de décision. Quand il s'agit des robots cognitifs qui reposent sur l'intelligence artificielle, en revanche, ils seront capables d'apprendre à partir de leur expérience passée et de recalibrer eux-mêmes leurs algorithmes. Par conséquent, leur comportement ne sera pas entièrement prévisible et ce point exigera certainement à l'avenir une sérieuse attention et une réflexion éthique. Ici, on peut par exemple se référer à l'article de Stanislas Dehaene. Qu'est-ce que la conscience et les machines pourraient-elles l'avoir ? Ou par exemple, il se demande comment est-ce qu'une conscience artificielle est-ce qu'elle pourrait être appliquée à des robots et des machines au niveau des calculs. Effectivement, ce qu'il donne comme une conclusion, c'est qu'il faudrait quand même prendre en compte l'expérience subjective qui échappe à une définition informatique qui n'est pas uniquement basée sur des calculs. Et c'est dans cet aspect-là que ma réflexion s'est portée après, en considérant l'importance de l'incarnation. Donc de considérer pas simplement l'intelligence par rapport à des calculs, mais par rapport aussi le fait d'être incarné, d'avoir un corps qui nous met en lien avec la réalité et la sensibilité. Donc le rapport entre la sensibilité et la connaissance. Comment cette question éthique se pose donc à nous aujourd'hui ? Les machines robotiques brouillent effectivement les limites entre sujet humain et objet technologique en manifestant une capacité d'agir que ressemble, sur certains aspects, à celle des êtres humains, à savoir la capacité de prendre des décisions, d'exprimer et d'interpréter des sentiments et de prendre en charge ou d'aider à la réalisation de tâches humaines telles que conduire une voiture, enseigner ou dispenser des soins. Ainsi, comme ils peuvent agir de façon autonome et entrer par eux-mêmes en interaction avec leur environnement, le comportement des robots se caractérise par une capacité d'action indépendante. C'est la raison principale pour laquelle les technologies robotiques sont des technologies révolutionnaires. La capacité d'agir, en effet, a toujours été considérée comme le propre de l'homme et non d'une machine. Il existe cependant des différences très nettes entre la capacité d'agir d'un être humain et celle d'un robot. La capacité d'agir d'un robot n'est pas aussi autonome puisqu'elle est le produit du travail de concepteur et de programmeur et des processus d'apprentissage de systèmes robotiques cognitifs. Néanmoins, les robots finissent par faire des choses et cela est le résultat de leurs propres interactions et processus de décision et pas uniquement des instructions fournies par leurs concepteurs. La question de la capacité d'agir des robots prend un tour plus urgent et même perturbant lorsqu'on aborde la question sous l'angle moral. Pour être un agent moral et pour être responsable de ses actes, un être quelconque doit pouvoir agir d'une manière libre et intentionnelle et non être dirigé ou contraint à faire accidentellement quelque chose. Les robots ne sont pas dotés d'une liberté et d'une intentionnalité comparables à celle des êtres humains. Néanmoins, ils disposent d'un degré de liberté plus important que celui des machines ordinaires, puisqu'ils peuvent prendre des décisions et d'une certaine forme d'intentionnalité liée aux algorithmes qui régissent leurs interactions spécifiques avec l'environnement et leurs actes potentiels. Par contre, ils n'ont pas de cette réflexivité, ils ne se posent pas la question de l'action laquelle ils ont pris, et il n'y a pas de réflexivité par rapport à l'action en tant que telle. Et point qui me semblait important de souligner, c'est que lui n'a pas, effectivement, n'étant pas incorporé le désir et la volonté en tant que tel. Donc ce n'est pas lui, il ne redoute pas le moment, par exemple, où un être humain le débranchera. Il n'a aucune crainte. Et ne sent quoi que ce soit. Donc, tout en faisant son calcul et tout en agissant, elle n'a pas de sentiment par rapport à son acte en tant que tel. Les nouvelles disciplines d'éthique des machines réfléchissent, par exemple, déjà aux moyens de doter les machines de principes éthiques et d'une procédure de résolution de problèmes éthiques qu'elles peuvent rencontrer, en leur permettant ainsi de fonctionner d'une manière éthiquement responsable sur la base d'un processus de décision éthique propre. Ce nouveau domaine de recherche comporte déjà des disciplines spécialisées, par exemple l'éthique des machines médicales, qui s'occupe tout particulièrement de machines médicales capables d'accomplir des tâches qui exigent une attitude à l'interaction, une sensibilité psychologique, des connaissances pratiques et toute une gamme de règles de conduite professionnelle, ainsi qu'intelligence, autonomie, responsabilité en général sur le plan éthique. Mais deux questions se posent et il faudrait l'examiner dans ce contexte. Est-il possible de construire des agents moraux artificiels? Et dans l'affirmative, quel code moral faut-il intégrer à leur programmation? La plupart des chercheurs travaillant donc dans ce domaine de l'éthique des machines reconnaissent que les robots sont encore loin d'être des agents éthiques, comparables aux êtres humains, et en particulier à l'aptitude de ce dernier à raisonner sur la base des principes moraux en appliquant ces principes dans des situations concrètes diverses. Cependant, ils s'accordent à penser que l'aptitude à devenir un sujet moral est une affaire de degré. C'est pourquoi il distingue les agents éthiques implicites et les agents éthiques explicites. Selon James Moore, qui est le professeur de philosophie à Dartmouth College aux États-Unis et qui est un pionnier de l'éthique machine, une machine est un agent éthique implicite dans la mesure où elle est équipée d'un logiciel qui empêche ou restreint les comportements non éthiques. Autrement dit, il est possible de programmer de manière limitée une machine en un sens éthique afin d'éviter les conséquences moralement non souhaitables de l'exécution de certaines tâches spécifiques. Par exemple, on le voit aujourd'hui avec les distributeurs automatiques de billets qui sont programmés pour rendre exactement la monnaie aux clients, ou les pilotes automatiques sont programmés pour ne pas mettre en danger la sécurité des passagers. Certains philosophes, comme Julien Savulescu, qui sont proches des transhumanistes, considèrent aussi que les agents éthiques artificiels, grâce à leur vitesse de calcul et au fait qu'ils sont dépourvus des imperfections morales humaines, typiques, par exemple la partialité, l'égoïsme, le biais individuel et préjugés affectifs, faiblesse de la volonté, pourront en fait aider ou même remplacer les êtres humains en cas de décision morale difficile dans certains contextes précis et limités. De la même façon qu'un travail humain, physique ou mental, imparfait a pu être remplacé par un homologue robotique ou l'intelligence artificielle. Elle soutient ainsi que selon les modalités nouvelles, la capacité d'action morale des êtres humains. Une question plus difficile à résoudre est celle de savoir si des robots pourraient un jour devenir des agents éthiques explicites, à part entière, comme les êtres humains. Est-il possible de programmer des machines ou des robots de façon à ce qu'ils puissent agir conformément à des principes, manifester certaines vertus, justifier moralement leurs actes? Pour pouvoir disposer de ces capacités, comme on le rappelle souvent, le libre arbitre est nécessaire et celui-ci, dit-on, est la prérogative des êtres humains. Des robots pourraient-ils avoir des connaissances morales qu'ils appliqueraient à résoudre toute une gamme de problèmes moraux différents et peut-être même très complexes? D'après Moore, bien que des recherches intéressantes se poursuivent en ce domaine, en particulier dans les domaines avancés de la logique déontologique, de la logique épistémologique, de la logique d'action, pour le moment, je la cite, les exemples clairs de machines agissant comme des agents éthiques explicites demeurent élusifs et de nouvelles recherches seront nécessaires avant qu'un agent éthique explicite solide puisse exister dans une machine. Par contre, d'autres auteurs sont plus optimistes, par exemple Blay Whiteby, éthicien en technologie, spécialiste en informatique, en intelligence artificielle et en robotique, qui est basé à l'université de Sussex en Angleterre, soutient qu'un agent éthique explicite ne doit pas être conçu d'une manière essentiellement différente des programmes informatiques actuels de jeux d'échecs, compte tenu en particulier du fait que dans ce type de programme, tous les mouvements de pions possibles ne sont pas programmés car ils s'appuient en fait sur des procédures générales de décision. Le fait demeure toutefois que programmer un ordinateur à se comporter de manière éthique est beaucoup plus difficile que de programmer un ordinateur à jouer aux échecs comme un champion mondial. Car les échecs constituent un domaine simple où les mouvements autorisés sont bien définis, tandis que l'éthique englobe un domaine complexe où certains mouvements souhaitables sont mal définis. Autrement dit, prendre des décisions morales et agir sur la base de ces décisions en temps réel, dans le monde réel, nécessite non seulement la connaissance de principes moraux complexes, mais aussi l'aptitude à reconnaître et évaluer un large éventail de faits concernant les êtres humains, d'autres êtres sensibles et leur environnement. Pour ne citer qu'un aspect du problème, les décisions moralement pertinentes, par exemple le choix de poursuivre différents avantages et d'éviter divers dommages, varient non seulement entre des groupes d'individus différents, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, les personnes en bonne santé et les malades, mais aussi à l'intérieur d'un même individu au cours de son existence, au fur et à mesure de sa croissance, de sa maturation et l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Il ne semble donc guère probable qu'une machine dépourvue de sentiments comme l'empathie, qui est importante pour évaluer les avantages et dommages physiques et psychologiques possibles, réussissent à traiter la diversité des faits et des choix moralement pertinents. Et ceci a été effectivement démontré avec le jeu du Go, car la machine a réussi à battre, mais effectivement, elle a fait uniquement le calcul, donc il lui a permis de battre le joueur, mais ça a montré aussi que sa façon d'agir a été complètement immorale, qu'aucun être humain n'aurait agi de cette manière étant donné qu'il respectait son adversaire dans le jeu, ce que machine n'a pas fait. Donc, elle agit uniquement dans un contexte utilitariste, enfin, c'est d'obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire de battre. Donc, l'utilisation de robots dans la plupart des domaines de la vie est généralement considérée comme acceptable dès lors qu'ils exécutent leurs tâches mieux que les êtres humains, et commettant moins d'erreurs. Le même raisonnement pourrait sans doute s'appliquer à l'utilisation de robots en tant qu'agents éthiques implicites ou conseillers moraux artificiels pour assister les êtres humains qui prendraient la décision finale dans les situations morales complexes. Par exemple, en cas de catastrophe naturelle lorsqu'il faut décider la répartition de ressources limitées. Toutefois, même cet usage éthique limité des robots donc, n'est pas sans présenter certains aspects potentiellement inquiétants. Il pourrait en effet amener les êtres humains placés dans de telles situations à éviter de réfléchir eux-mêmes aux choix moraux à effectuer et à déléguer trop vite et trop facilement la décision à leur conseiller artificiel. Et c'est ce qui me semble vraiment le point à être regardé de près, car il y a un risque connexe qu'avec le temps, divers professionnels, médecins ou officiers militaires par exemple, soient conduits à perdre toute sensibilité morale ou aptitude à la réflexion morale sérieuse, comme on a pu l'observer pour l'aptitude à l'écriture et au calcul après la diffusion des calculatrices de poche et des ordinateurs individuels. N'ayant pas suffisamment de temps, donc je vais conclure en disant que le débat qui se pose aujourd'hui au sein donc, de notre société au sujet de la robotique et au sujet donc, de l'intelligence artificielle en général est limité par deux points de vue extrêmes. Donc le techno-optimisme, dont l'utopie du transhumanisme peut être considérée comme une version extrême, et le technopessimisme qui repose sur la crainte d'un avenir dystopique et invoque la nécessité du bioconservatisme pour défendre l'humanité contre l'impact trop radical des technologies. La philosophie de la technique, qui essaie donc de réfléchir entre ces deux extrêmes, qu'il faudrait en même temps revoir, développe une approche dite de médiation technologique et offre un modèle qui me semble assez intéressant pour aborder la question d'une capacité d'agir non humaine. S'appuyant sur les travaux de Don Hicht, un philosophe américain de la science et de la technologie et un post-phénoménologue, cette approche envisage les technologies non comme des objets non humains par opposition au sujet humain, mais comme des médiateurs entre les êtres humains et leur environnement. En effet, les technologies en usage se positionnent généralement au niveau des relations entre les êtres humains et les mondes extérieurs. Par exemple, les téléphones portables permettent aux individus de rester en contact. Les appareils d'imagerie par résonance magnétique permettent aux médecins d'obtenir une image du corps de leurs patients. En remplissant cette fonction de médiation, les technologies contribuent à modeler l'expérience que les êtres humains ont du monde et la manière dont ils agissent dans ce monde. Cette manière d'envisager les choses permet d'échapper à l'alternative consistant à décrire les robots soit comme des objets technologiques, soit comme des sujets quasi-humains. Lorsque l'on introduit un robot dans une pratique spécifique, les soins infirmiers, l'enseignement, le nettoyage ou la guerre, par exemple, ce robot commence immédiatement à jouer un rôle de médiation en modifiant la pratique en question. Dans une telle perspective, au lieu d'être des agents à part entière, les robots servent à médier la capacité d'agir. La question essentielle, par conséquent, n'est pas de savoir s'ils peuvent être comparés aux êtres humains ou même les dépasser, mais plutôt de déterminer de quelle façon ils modifient les pratiques humaines en déplaçant ainsi le cœur de la réflexion vers l'analyse de la qualité des relations homme-robot et la prise en compte de cette analyse dans la conception, la mise et l'œuvre et l'utilisation des robots. Donc ça va demander aussi une reconsidération d'approche des technologies, l'enseignement et l'utilisation des technologies, en même temps donner des cadres politiques, cadres éthiques. Et puis bon, ça entre vraiment dans un contexte très large du marché et de l'économie et de toute la société. Enfin, on ne peut pas développer tous ces points-là. Voilà. Je vous remercie.
Voilà, merci Yulia de cette dernière intervention. Voilà, vous voyez que ce n'était pas évidemment incohérent par rapport à ce qui précède. Nous avons quitté le cerveau au sens strict, mais il est clair que les considérations sur l'intelligence artificielle résonnent par rapport à tout ce que au modèle évoqué précédemment. Voilà, nous prenons. Les 10 minutes qui restent, nous pensons que nous ne ferons pas de conclusion, parce qu'il me paraît difficile de faire une conclusion de la journée. Beaucoup de considérations qui ont été abordées, que chacun connectera à sa façon. Donc prenons le temps qui reste pour un échange.
Merci. Une question, c'est plutôt par rapport justement au changement de paradigme dans l'intelligence artificielle, donc avec les machine learning et l'apprentissage, où on a, donc les gens l'expliquent comme une sorte de boîte noire complexe, où on ne sait pas exactement les opérations qui sont réalisées, on les comprend intuitivement, mais on a du mal à savoir quelles sont la suite des opérations. Donc en perception, dans le Go par exemple, ça marche très bien. On peut imaginer aussi appliquer ce type d'algorithme pour des problématiques. C'est-à-dire qu'on aura des réponses éthiques sans connaître forcément la formalisation du problème en tant que tel. Et on aura peut-être des réponses beaucoup plus profondes, parce que justement ces systèmes-là auront des capacités d'intégration de paramètres beaucoup plus importants. Et on aura peut-être, et on peut imaginer aussi que on peut avoir des réponses éthiques beaucoup plus sophistiquées à jour si on alimente correctement ce type de système.
Merci. Oui. Il y avait une question de l'autre côté.
Très rapidement, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir mis une telle intervention en fin d'une journée comme celle-ci, parce qu'elle montre qu'il y a un problème qui est en train de se développer et qui est le problème que nous vivons, même presque quotidiennement, c'est-à-dire du choix qui est fait économiquement de donner à des intelligences artificielles des décisions sur notre vie quotidienne. Les étudiants qui vont rentrer en université vont s'affronter à un algorithme. Alors ce que je voudrais simplement dire, c'est que je pense qu'il serait très intéressant, qu'il y ait plus qu'intéressant, il est nécessaire qu'il y ait une réflexion théologique sur le choix qui est fait par notre société de donner de plus en plus des décisions qui s'imposent à notre liberté par des intelligences artificielles. Parce que des milliers d'emplois sont détruits et vont de plus en plus être détruits. Et donc il est nécessaire de réfléchir sur le choix humain et le choix théologique de cette société dans le domaine d'usage des intelligences artificielles.
Merci.
Il y a encore deux interventions, on va les prendre. Parce que...
Oui, on va les prendre les deux. Deux interventions, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup. Je vais poser une question naïve qui est sur la place. Enfin, est-ce que ça existe dans le débat, dans les débats que vous connaissez, la recherche de produire une conscience artificielle? Parce que la question que je me posais en vous écoutant, c'est que ce qui paraît évident, si on essaie de passer d'un agent éthique implicite à un agent éthique explicite, c'est que quelle que soit la sophistication du logiciel moral que vous allez mettre dans la machine, tant que la machine ne sera pas consciente, elle ne sera pas un agent moral explicite. Elle ne sera qu'un ordinateur qui donne des réponses à des questions éthiques. Et donc, la conscience en elle-même n'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça, puisqu'il y a même des conscients non humains. Il y a tous les animaux qu'on pourrait penser. Donc, on pourrait penser que l'objectif de faire de la conscience artificielle est peut-être complexe, mais en tout cas, il n'est pas le même genre de complexité que d'essayer de faire un super ordinateur pour le Go, etc. Enfin, les animaux ne savent pas jouer au Go, ça ne les empêche pas d'être des agents conscients. Enfin, peut-être pas des agents, mais en tout cas des êtres conscients. Et donc voilà, ma question c'est, est-ce que la première étape la plus importante, si on veut réfléchir aux agents éthiques artificiels, ce ne serait pas de réfléchir à la conscience artificielle? Et du coup, voilà, qu'est-ce qui existe sur cette question?
Et Thomas, juste devant.
Voilà, et ma question est liée, puis c'est pour revenir au titre de l'intervention. Quelle liberté pour les intelligences artificielles? Donc vous avez semblé dire à un moment qu'il était évident que les intelligences artificielles n'avaient pas de liberté. Et on pourrait imaginer que si on se pose la question par rapport à l'humain, que la question n'est pas tranchée par rapport aux lois de la nature, autant on connaît tout à fait les lois qui déterminent le comportement des robots. Mais je voudrais avoir la confirmation que c'est ça votre réponse à la question ou pas. De la liberté.
Merci. Alors,
merci allez-y. Pour toutes les questions. Je ne sais pas si je saurais répondre à toutes, mais effectivement, en ce qui concerne tout d'abord la conscience artificielle, il y a déjà une réflexion là-dessus. J'ai mentionné l'article de Dane, oui, qu'est-ce que la conscience et les machines pourraient-elles avoir? Il y a eu même une réunion en 2001 aux États-Unis réfléchissant sur la possibilité des consciences artificielles. Effectivement, oui. Ils disent qu'au niveau des calculs, donc de disposition d'informations, il y aurait éventuellement une possibilité de autosurveillance des choix pris dans le pool, en fait, la piscine d'informations dont ils disposent, et de penser la manière de cet organisme qui se rapporte en faisant le choix par rapport à ces disponibilités d'informations, et de porter une réflexion auto-même surveillée. Mais ce qui se présente comme étant problématique dans cette approche-là, c'est le manque de l'organisme en tant que tel, parce que l'organisme tel qu'il fonctionne, et même au niveau de conscience, ça se montre très important, ce n'est pas uniquement au niveau numérique et au niveau de l'électricité qui est présente, mais c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a aussi induction de chimie qui constitue enfin tous les organismes vivants. Et là, par exemple, il y a dans la façon dont l'information passe dans nos neurones, il y a des coupures. Et cette coupure, effectivement, elle est indispensable pour la réflexion humaine qui est transposée par la chimie. Donc il y a tout le complexe, toute la complexité qui est présente avec les génomes, la génétique, l'épigénétique de tous les organismes vivants, donc la relation avec l'environnement, l'éducation. Et donc la façon dont l'information est transposée inclut non pas donc le signal électrique, mais aussi tout ce contexte chimique, biologique, vivant, et qui en même temps conditionne humain dans son organisme corporel. Et là, je rejoins toute cette importance peut-être théologique qui devrait aller dans le fait de considérer l'importance de l'incarnation, et que la liberté, c'est effectivement accepter notre limitation et nos conditions humaines, et qui est déterminée, et construire sur cette base-là, avec tous les exemples de la christologie, l'anthropologie, l'ascèse. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que il y a effectivement une quête vers cette conscience artificielle, mais elle n'est en ce moment-là, pas possible, pas réalisable. Oui, il y a tant de choses qui sont dites. Après, il y a tout un débat qui est porté par la façon dont ces informations sont véhiculées, parce qu'il y a même un énorme souci de compétitivité où, par exemple, même les plus grandes revues scientifiques n'ont plus le temps de vérifier leurs données pour le besoin de publier le plus vite. Après, la publication, ils se rendent compte que les résultats échappent. Donc, dans la communauté scientifique, il y a une demande d'une connectivité beaucoup plus grande parmi les scientifiques pour pouvoir vraiment être mise à jour presque quotidiennement sur le développement, et pour reprendre ce qui a été publié, ce qui s'est avéré ne pas être correct. Et après, il y a aussi, à mon sens, une utilisation du contexte qui est donné à toute cette réflexion-là, qui manipule aussi les sciences et l'esprit scientifique. Par exemple, vous pouvez lire, il y a tout un marketing qui est fait autour, par exemple, la guerre des intelligences de
Laurent Alexandre,
où lorsque vous lisez, vous pouvez voir, si vous avez un moindre esprit critique, que la majorité des choses n'y tient pas. Je ne dis pas que la science se ne développe pas. On a vu par rapport à la robotique, c'est pourquoi j'ai dit, dans les années 66, il y avait tout un ordinateur qui remplissait une salle pour bouger un robot qui ne pouvait presque pas faire de grandes choses. Et aujourd'hui, on a un robot avec lequel on interagit et qui, effectivement, développe ce deep learning qui ressemble au cerveau humain. En fait, les algorithmes sont positionnés sur plusieurs niveaux, effectivement, pour aller d'un secteur à l'autre et relier les informations, avoir donc une complexité. Et là, sur cet aspect-là, se fonde toute on est toujours dans le transhumanisme, peut-être post-humanisme, de Ray Kurzweil, qui dit qu'il y aurait une singularité. En fait, que la complexité des machines, de la façon d'aborder toute la complexité des informations, aura un phénomène de singularité ou d'expansion, enfin, qui dépassera nos en perception de, du développement technologique tel que là on l'a aujourd'hui. Mais effectivement, nous, on n'est encore pas à ce stade-là.